Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, ben, on va achever la bête. Cette fois, on est à peu près obligé. Et donc, ben, je vous rappelle, que pour ceux qui s'intéressent alors plus au diagnostic et autres, j'ai beaucoup de questions. Essayez d'aller suivre les cours de l'équipe de psychologues cliniciens, hein, qui va avoir lieu à partir du mercredi 28 avril jusqu'au 2 juin, et qui s'appelle « Penser les concepts limites ». Alors là, vous pourrez les assaillir de questions, parce qu'eux sont mûrs comme cliniciens. Moi, je suis encore en herbe. Hein, donc.
Je te coupe une seconde. J'ai oublié de rappeler, enfin, il y a des gens qui ont dû recevoir mon mail, mais il y a une invitation demain soir à l'IEP. En plus du film, il y a un film aussi dans la série « La censure » demain soir, « La jeune fille de Buñuel ». Mais avant, de 18 à 20 heures, il y a une conférence autour du 11 septembre et de la théorie conspirationniste. Ça risque d'être assez agité. Donc il y a quelqu'un qui va venir essayer de démonter cette histoire de complot conspirationniste autour du 11 septembre. Donc c'est au grand amphi de l'Institut d'études politiques qui est juste en face du Comédia. Demain à 18 heures. Animé par Philippe Corcuff, mais ce n'est pas lui qui fait la conférence, un spécialiste de génie civil, ou je ne sais pas quoi, qui va essayer de démonter toutes ces théories fumeuses.
Merci. Alors, moi aussi, j'ai une petite information à rajouter. Il y a deux feuilles pour ceux qui ont pris des polycopes, hein, je peux leur donner, donc avant de partir, prenez les deux feuilles. C'est l'une qui traite de la thériaque, qui est une feuille blanche pour le moment, page 21, et puis le plan du texte. Voilà, alors donc, on en était à essayer de cogiter sur les anxiolytiques, donc on a vu un certain nombre de choses, rapidement peut-être, en tout cas le premier paragraphe, la question de l'angoisse, plus ou moins. Ensuite, l'histoire d'une révolution tranquille, bien sûr, pour simplement souligner que ces anxiolytiques étaient souvent appelés au départ les tranquillisants. Donc tranquillisants, c'est assez vaste et assez peu défini. Tandis qu'anxiolytiques, ça dit la fonction essentielle qu'on leur reconnaît, c'est de lutter contre l'angoisse. Donc du coup, en physiologiste ou en psychophysiologiste, je préfère utiliser le terme d'anxiolytique. Donc on a vu vaguement les structures chimiques, mais je vais y revenir bien entendu, puisque c'est quand même ça qui motive un peu la question. Et je vais retraiter un petit peu de ces structures chimiques grâce au troisième paragraphe, qui est l'action des benzodiazépines, et bien entendu en commençant par les quatre actions des benzodiazépines. Donc, si je résume un petit peu, nous avons vu des tranquillisants qui étaient assez anciens, si ma mémoire est bonne, hein, c'est-à-dire le chloral, les quinines et autres, voilà, qu'on appelle les carbamates. Et puis, ensuite, on a vu qu'il y avait une deuxième famille qu'on appelle les benzodiazépines. Alors, bon, c'est une famille qui est assez resserrée, puisqu'ils sont tous, ils dérivent tous les uns des autres. En gros, c'est là-dessus qu'on va un petit peu insister. Et puis il y a une troisième famille que l'on appelle, on ne sait pas comment les appeler, alors bon, on les appelle de la façon la plus stupide possible. Ce sont les nouveaux anxiolytiques non benzodiazépines. Voilà, alors je la donne comme on la trouve, hein, dans la littérature, c'est-à-dire dans le Vidal, quoi, en gros. Hein. Alors, bien sûr, après les quatre actions cliniques des benzodiazépines, on va essayer de voir le mécanisme d'action, et donc, automatiquement, on va tomber sur un neuromédiateur, bien sûr, et vous l'avez déjà un petit peu compris, ce neuromédiateur, ça va être le GABA. Le GABA. Alors le GABA, c'est une vieille connaissance, hein, puisque je vous en ai amplement parlé il y a quelques années, donc je vous redirai l'essentiel. Donc alors, à côté des anciens tranquillisants, les benzodiazépines et puis les nouveaux anxiolytiques, dans benzodiazépine, alors vous en connaissez sans doute certains, la Nanxi, la Tarax, la Triop, le Buspar, la Covatine, est-ce présent? Voilà, alors, pour juste donner un exemple de ces nouveaux anxiolytiques, ben voilà, la Tarax, voilà la formule chimique. Bon, je n'insiste pas, hein, donc on la connaît, ça peut pas nous donner grand chose de plus. Donc, ça veut dire déjà, si on fait simplement de la logique du langage, hein, si on dit nouveaux anxiolytiques, ça veut dire qu'ils viennent de sortir, ils sont nouveaux, mais s'ils sont nouveaux, on ne connaît rien d'eux. Alors, quand vous voyez plus que ça a toutes les vertus, bien entendu, vous pouvez vous y asseoir dessus parce que c'est pas vrai. On nous cache quelque chose, comme dirait la mère machin. Hein. Et alors, puisqu'on prend en plus la précaution de dire non benzodiazépine, bah, forcément, ça veut dire qu'ils ont toutes les vertus que les benzodiazépines n'avaient pas. Quoi. Donc là, on sent tout de suite l'embrouille. Forcément, hein, vous allez voir, on va retrouver ça. Hein. Donc voilà, vous mettez ça en mémoire. Et puis, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut attribuer comme action aux benzodiazépines. Eh bien, traditionnellement, on considère que ces benzodiazépines, elles ont quatre actions essentielles. Et les voilà. Donc, alors, faisons simple, en restant presque l'éthique, puis après je vous donnerai quelques détails de plus. Donc, la première action des benzodiazépines, c'est d'avoir un fort effet anxiolytique. Mais il y a tout de suite derrière, a été mise en évidence, une autre action qui est hypnotique. C'est-à-dire qu'il fait... Donc, non seulement les benzodiazépines ont tendance à contrecarrer les angoisses, mais en plus, elles ont tendance à faire dormir. Voilà, quelle relation il existe dans... Voilà. La troisième, c'est une action anticonvulsivante qui a été assez vite mise au point, enfin assez vite mise en évidence plus exactement. Et enfin, quatrième, c'est une action myorelaxante. Voilà, alors. Bien entendu, chaque année, il y avait des nouvelles propriétés qui étaient découvertes, mais des fois, c'était spécifique d'une seule molécule. Si on reste de façon générale, les benzodiazépines ont pratiquement toujours ces quatre actions. Simplement, certaines de ces actions sont prépondérantes avec certaines molécules, et puis d'autres, plutôt avec d'autres. Voilà. Et donc, si, pour fixer les idées, l'action... anxiolytique, le chef de file, c'est Valium. C'est un des premiers qui a été découvert et ça reste la référence. Et donc, quand on teste l'effet anxiolytique, quand on fait de la recherche, c'est bien entendu, on prend du Valium et puis on compare l'effet anxiolytique de l'autre molécule. Voilà. Et on voit si c'est autant, plus, moins, un dixième, un centième, un millième, quelqu'un on laisse tomber. Et bien entendu, les premières expérimentations sont faites chez l'animal, chez la souris. Hein, on les stresse, et puis on leur fait des piqûres de Valium, et puis ça les témoins, et puis, bien entendu, on teste la molécule inconnue. Et alors, est-ce qu'elle a plus d'effet? L'animal est moins tendu, moins agité, moins, ou plus, comme vous voulez. Alors, l'action hypnotique, on s'aperçoit que la moitié des benzodiazépines qui peut être utilisée comme hypnotique. Et donc l'inverse, il y a une bonne moitié, comme les benzodiazépines, il y en a à peu près 18, une vingtaine, bon, ben, il y a une dizaine de benzodiazépines dont l'action principale est de faire dormir. Ça n'empêche pas du tout de diminuer l'angoisse ou d'avoir des effets peut-être un petit peu anticonvulsivant si nécessaire, ou un peu mieux relaxant, bon, ça va dans le même. Et puis, la troisième action, qu'on appelle donc anticonvulsivante, là, bien entendu, ça intéresse bigrement les patients épileptiques, hein, bien sûr, parce que quand on pense à convulsion, c'est essentiellement ça l'action. Donc, on s'est aperçu qu'il existait deux catégories de benzodiazépines. Les 1-4, bon, je vous explique tout de suite après, je l'ai déjà un peu évoqué, mais je vous le donne tout de suite après. Les 1-4, qui s'appellent le rivotril et le valium, donc le valium que vous connaissez, mais aussi le rivotril. Voilà, les deux qui sont de la structure 1-4. Et puis, un seul de la série 1-5. Un seul de la série 1-5. Et je trouve que dans la série 1-5, il n'y a qu'un représentant. C'est l'urbanine. Bien entendu, ça a été très énigmatique, quoi, de découvrir des benzodiazépines qui avaient des actions sur les convulsions. Et donc, ben, il va falloir que je vous explique un peu comment on en est venu à comprendre comment ça peut être relié, toutes ces histoires. C'est une histoire qui a été un peu compliquée. Je veux dire, pour situer les idées, ça doit être en 1970 qu'on a commencé à s'y intéresser, et ça a été dénoué en 85. Quoi. Voilà, il y a eu 15 ans de recherche où on comprenait des petits bouts de la réalité sans arriver à avoir une vision d'ensemble. Et puis la dernière, c'est bien entendu l'action myorelaxante. Par exemple, le chef de file, c'est le myorelaxant. Voilà. Alors donc, bien entendu, puisque ce sont toutes des benzodiazépines, vous pouvez très bien avoir des patients qui vont être anxieux, qui vont avoir des insomnies, et qui vont avoir un lumbago. Hein, ça arrive à des gens très bien. Hein. Bon, alors bien entendu, les angoisses, je ne sais pas quoi, ben, c'est un médecin qui va traiter à un moment donné, puis une fois que c'est bien réglé, ben, la personne va rester sur ses rails, elle va se bouffer ses trucs, puis c'est tout. Quoi. Quelques temps après, il se trouve qu'elle a des insomnies. Le médecin en question, premier, est mort, ou elle a déménagé, ou je ne sais pas quoi, donc la personne va consulter un autre médecin. Puis même si c'est le même, de toute façon, s'il fallait en plus regarder tout ce qui... Bon, bien entendu. Donc, vous comprenez facilement que vous avez une deuxième prescription. De quoi ? De benzodiazépine, bien sûr. Et comme c'est tout la même chose, à quelques nuances près, bon, ça veut dire que ce n'est pas 10 mg que vous ramassez tous les jours, c'est déjà double, quoi, 20, voilà. Et si jamais, oulala, putain, oulala, la sciatique, je ne sais pas quoi, surtout en ces temps, un peu humides, eh bien c'est bon, vous êtes bon pour aller sur vos lieux de travail, voir le médecin de je ne sais quoi, et qui vous prescrit, bah bon, du myolastant, quoi, bon, ça n'a jamais fait de mal à personne. Non, sauf que c'est encore une benzodiazépine. Et ça fait 3, quoi, voilà, c'est tout. Et il n'y a pas de corrélation parce que personne n'en sait rien. Hein, pas même les médecins généralistes, hein, bien entendu. Quoi, on veut, ils regardent le Vidal, puis c'est tout. Quoi, hein, pas être méchant, mais ils n'ont pas la formation pour. Alors, donc, on commence à comprendre que les benzodiazépines sont très dangereuses, tout simplement parce qu'elles sont presque vécues comme étant inoffensives. On les a même appelés les pilules du bonheur, quoi, presque. Et donc, du coup, bon, voilà, ça va pas, bah, toc, une dragée, puis ça y est, matin, midi et soir, quoi, hein, bon, voilà, c'est pas gagné, donc. Surtout quand on connaît les effets secondaires des benzodiazépines. Voilà, bon, c'est bon. Alors, là, on va prendre un peu plus de détails, si vous voulez. Ces actions méritent d'être un tout petit peu plus approfondies. Donc, l'action des benzodiazépines, un tout petit peu plus étoffée pour que, maintenant que vous avez des idées claires, vous puissiez l'intégrer. Alors, première action, bien sûr, toujours celle qui nous préoccupe, là, c'est pour ça que je vous en parle, c'est l'action anxiolytique. Mais, bien entendu, elle joue aussi, de façon plus large, anti-conflit, voilà, c'est-à-dire, bon, vous êtes menacé dans votre travail, ou je ne sais quoi, vous êtes harcelé, je ne sais quoi, ça vous amène des tensions et des conflits internes, pour résister, que font nos contemporains? Ils forcent la dose, quoi. Hein. Et de quoi? De ce que les généralistes leur prescrivent, c'est-à-dire l'anxiolytique. Des inhibitions de comportement réprimé, effet en frustration. Voilà. Et puis comme les enfants aussi, non, si j'ose dire, en prenant le thème, n'ont pas de limites, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de limites, on va essayer de les rencontrer, ces limites. Et donc, du coup, c'est la frustration permanente si on dit non, et puis sinon, bon. Et donc, du coup, les enfants aussi sont gavés de benzodiazépines, puisque par définition, en tout cas dans l'esprit, c'est quelque chose qui n'est pas dangereux. Alors, l'action anticonvulsivante, ça, il faut le prendre à tête reposée un petit peu, on va le prendre un peu de temps pour dire. Et puis, autre action encore, qu'on appelle sédative, hein, qui va permettre de dormir, hein, c'est l'effet tranquillisant, qui diminue le niveau de vigilance, le niveau de l'activité et de la réactivité psychomotrice. Donc, c'est un effet hypnotique, c'est-à-dire, vous vous endormez, en quelque sorte, plus facilement, puisque, en gros, la plainte chez le médecin généraliste, c'est que j'arrive pas à m'endormir, j'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, ou bien je m'endors juste quand le réveil va sonner, etc. Quoi, hein, vous connaissez, là, tout de, ça, bon, forcément, pour le généraliste, il dit, bon, il y a un problème de sommeil, bon, hypnotique, voilà, bon, tiens, lequel? Tiens, celui-là, là, il a l'air bien sympa, la visiteuse médicale est honnête, pas de soucis, le pharmacien, je l'ai à la bonne, bon, voilà, c'est pas compliqué. Bien entendu, c'est un effet hypnotique, mais il y a une facture à régler quand même, hein, c'est comme les subprimes, hein, c'est bien, bon. Bien sûr, on vous prête sans avoir de répondant, bien sûr, mais un beau jour, on vous pique votre maison. Ben, c'est la même chose. Quand on joue avec l'angoisse ou avec le sommeil, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, on n'a rien sans rien. Il y a à payer. Et donc, bien entendu, il se trouve que le sommeil paradoxal, si vous vous rappelez de l'année dernière, il est fortement impliqué dans les problèmes de mémoire. Voilà, donc, forcément, les angoisses empêchent l'établissement du sommeil lent qui empêche l'établissement du sommeil paradoxal, d'où des troubles et bien d'autres mécanismes qu'on verra par la suite. Renforcement de l'action d'autres substances, action centrale dépressive, c'est-à-dire que vous avez d'autres substances que vous prenez, bien sûr, pas que simplement vos poireaux et vos carottes, hein, probablement, et bien entendu, ça va avoir un effet sur le fonctionnement des centres nerveux, et qui va provoquer, alors là c'est un gros mot, ça, une potentialisation des benzodiazépines. C'est-à-dire, potentialisation, ça veut dire que ça va renforcer les effets des benzodiazépines. Alors ça c'est un univers là, dont je vous parle, et vous le connaissez, bien entendu, je vais essayer de vous expliquer, de vous démontrer pourquoi ça marche. Tout le monde sait ça, mais personne ne le dit. Quand on prend des psychotropes, en particulier des anxiolytiques ou des antidépresseurs, il y a une chose dont il faut s'abstenir, c'est de boire de l'alcool. Hein, vous savez, tout le monde sait ça. Hein. Alors, regardez les gens autour de vous, hein, ils attrapent les benzodiazépines à poignées, et pour faire glisser, un canon rouge, quoi. Bon, c'est humain. C'est humain. Et qu'est-ce qu'ils font tout de suite après? Allez, ciao, Berthe. Bam, voilà, bon, ils font ronfler le moteur. Ben, voilà, oui. Ben, c'est pas étonnant qu'il y a des accidents. Ça, alors là, bien sûr, parce que déjà, les anxiolytiques modifient complètement les réactions psychomotrices. Hein, si vraiment vous pensez qu'il y a 300 mètres, même si vous en foutez complètement, vous estimez que c'est 300 mètres sans savoir que c'est 300 mètres, puis en fin de compte, non, c'était 100 mètres. Hein, et puis, etc. Quoi. Oh, j'ai vachement de temps. Ben non, il n'y a pas de temps. Et voilà. Bon. Alors, bon, tous les vieux débris qui conduisent à toute blinde, à tous les jours, hein, vous lisez ce qui se passe, quoi, hein, aussi bien les jeunes cons que les vieux cons. Hein. Alors, les vieux, je me mets dans la catégorie, en m'excluant par rapport aux benzodiazépines, grâce à Dieu, ils sont gavés de benzodiazépines. Donc, prendre le volant, non seulement avec de l'alcool, mais en plus des benzodiazépines, ben là, vous êtes un danger public, quoi. Puis là, même si vous êtes à 0,5, ça fait rien, quoi, hein, parce que la potentialisation, ça veut dire qu'on a multiplié par 10 les effets. Voilà. Bon, on va vous faire chier avec le cannabis, ou je sais pas quoi, mais il y a beaucoup d'autres clients qui, eux, se morfalent des anxiolytiques et des hypnotiques et machin, des benzodiazépines. Voilà. Voilà ce que ça veut dire, quoi. Diminution par action centrale des réactions exagérées du système nerveux végétatif et endocrinien, donc des maladies psychosomatiques en règle générale, des problèmes hormonaux, des problèmes de tachycardie ou d'hypotension ou de je ne sais quoi, enfin tout ce que le système nerveux autonome est capable de générer, des anxiolytiques tapent dessus. Relaxation musculaire par action centrale, voilà, alors. Bon, une fois qu'on a dit ça, alors voyons, réduisons pour le moment à deux aspects, pour que vous ayez une petite idée de comment ça fonctionne quand même. Et donc, quelle est la stratégie du praticien, c'est-à-dire du psychiatre, en gros, qui manipule de la dynamite. Mais la dynamite, on a retiré la tête de mort, quoi, hein, en gros. Hein. Voilà. Si donc on prend uniquement l'effet anxiolytique et l'effet hypnotique, si on prend le début du tableau, comme le lexomil, librium, isanxia, le sériel, le francène, l'urbanil, mais aussi le nobrium, le cérestal, le temestal, le valium, par exemple, on voit que l'effet anxiolytique est assez bon, quoi. Et que, à l'inverse, l'effet hypnotique, c'est négatif. Voilà, c'est-à-dire, ça va donner une petite somnolence si vraiment on a les yeux bien pointus, mais en règle générale, on considère que ce n'est pas hypnotique. Le médecin considère que ce n'est pas hypnotique. Par contre, si le patient se plaint d'insomnie, alors à ce moment, il va prescrire cette catégorie, comme E-hypnose, Alcyon, Mogadon, Noctalone, Rohypnol, le chef de file, parce qu'il est réputé étant hypnotique, mais pas anxiolytique. Voilà, donc, forcément, ça, c'est pas tellement les psychiatres qui prescrivent, ça, c'est les généralistes. Alors, voici, il n'est pas anxiolytique, c'est bon, hein, bon. Même les griefs qu'on fait aux benzodiazépines, on le met sur le compte des anxiolytiques et non pas sur l'effet hypnotique des benzodiazépines. C'est-à-dire, comme il y a plusieurs actions, on pense que les critiques que je vais faire tout de suite après portent exclusivement sur l'effet anxiolytique. Et non, c'est sur la benzodiazépine, sur la molécule, pas sur ses actions. Voilà, donc ça veut dire que selon l'entretien clinique, le praticien va s'orienter plus ou moins du côté anxiolytique ou du côté hypnotique. Éventuellement, s'il y a des contractures, s'il arrête, si je ne sais pas quoi, ben, peut-être encore il va prendre cette dimension supplémentaire ou rajouter du miolastan, par exemple. Alors, je vous ai présenté l'autre fois les benzodiazépines, mais comme vous avez vu, il y avait vraiment plus qu'un air de famille. Hein. Là, cette fois, je vais vous présenter les deux familles avec simplement la formule générique. Là, ce sera plus facile de le mémoriser. Peut-être le comprendre. Voilà, donc, dans la vingtaine de benzodiazépines dont on a à disposition, il n'y en a qu'un qui est en position 1,5. Qu'est-ce que ça veut dire, position assainie? Voilà, ça veut dire qu'on a un premier cycle basénique normal, un deuxième cycle basénique normal, en gros, et puis un cycle qu'on appelle un hétérocycle, et qui comporte quand même pas mal de choses bizarres, quoi. On a deux carbones, carbone, hein, voilà, et puis deux azotes. Voilà, alors, bon, habituellement, si vous connaissez un tout petit peu les cycles de la chimie organique, bon, on s'attend à ce que ce soit des carbones. Quand ce sont des carbones, on ne l'écrit pas. C'est-à-dire, juste à cet endroit, je sais que c'est un carbone, parce que justement, il n'y a rien de marqué. Mais lorsque c'est autre chose qu'un carbone, je l'écris. Voilà. Donc, du coup, ici, c'est de l'azote. Et ça devient le premier atome de cet hétérocycle. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Voilà. Et donc, du coup, je m'aperçois que c'est en position 1,5 que j'ai le benzodiazépine. Le ça veut dire azote, hein, donc c'est N. Benzodiazépine, il est là, il est en position 1,5. C'est le 1,5 benzodiazépine, et dans la pharmacie, vous le trouvez sous le nom d'urbaine. Voilà. Et c'est le seul des 1,5. Tous les autres n'ont jamais rien donné, alors que les autres, il y en a en pagaille. Hein. Premier radical, deuxième, troisième, quatrième, même septième. Là, c'est-à-dire radical, je vous l'expliquais pour les neuroleptiques, vous pouvez mettre n'importe quoi, des chaînes, un atome ou une chaîne beaucoup plus volumineuse, et la plupart du temps, ça donne un petit effet différent, ça permet de déposer un brevet, quoi, hein, puisque c'est... C'est bon, non, mais c'est ça le... Autrement, autant rester générique, hein. Si... Donc, voilà, donc, l'urbanyl est le seul qui aboutit en prenant la position 1,5. Par contre, là où on a eu un peu plus de chance dans l'industrie chimique, c'est de prendre la position 1,4. Donc, bien, ça fait heureusement la même chose. Donc, bien sûr, à ce moment, vous avez vos deux azotes qui sont ici, dans cette position 1,4. Et, bien entendu, vous avez toujours les radicaux qui vous permettent de mettre, alors bon, soit de l'hydrogène, soit du fluor, soit du chlore, soit un CH2, soit un OH, soit... tout ce que vous voulez, quoi. Vous avez votre cochon et vous mettez la queue ou les oreilles qui vous intéressent, quoi. Voilà. Des fois, ça donne rien, et d'autres fois, ça vous donne une molécule qui a un effet oxolytique. Et puis, si vous tripotez un tout petit peu ce radical, à ce moment, ça vous donne plutôt un effet hypnotique. C'est ça que ça veut dire. Donc, du coup, ce sont les 1,4 benzodiazépines. Voilà, alors une fois qu'on a ça, bien entendu, on est obligé de se poser la question, mais comment c'est possible que ces benzodiazépines, surtout les 1,4, puissent agir dans le sérum? Eh bien, il nous a fallu du temps pour raccorder à ce que Laborite disait au début des années 70. Alors, donc, je fais un flashback, cette fois, là, pour raccorder. Laborite, qui était un peu bougeon, qui était un peu atypique dans le panorama des neurosciences, un électron libre, en gros, avait déjà ses heures de gloire avec la découverte du ergotil, la chlorpromazine, quoi, en gros. Et alors, il avait pu monter un laboratoire, un gros laboratoire de recherche sur le stress. Et, bien entendu, comme il n'était pas orthodoxe, il faisait des constatations que la plupart des neurophysiologistes étaient incapables de faire, parce que, bon, ils avaient leur programme, ils étaient orientés comme ceci, comme cela, il y avait des dogmes, quoi, et Laborite, saccageait les dogmes. Et je l'ai vu passer dans tous les labos, et à Lyon, bien entendu, et en particulier dans le labo mitoyen du mien, c'est-à-dire le labo de Jouvet, il faisait des conférences en disant, voilà, on a un problème, c'est que quand je fais l'analyse de ce qu'il y a dans le cerveau, j'ai une multitude de molécules qui apparaissent dans des proportions incroyables. Et la plus répandue de toutes, c'est une molécule qu'on appelle le GABA. Tous les copains de Lyon et des environs, qu'est-ce qui vient nous... casser les pieds, pour utiliser des trucs plus forts, avec ces histoires de GABA. Qu'est-ce qu'on se fout pas mal du GABA, voilà, et la borite d'insister. Bon ben, s'il y a du GABA en grande quantité dans le cerveau, il y a sûrement une raison. Voilà. Et puis, quand on le poussait un tout petit peu plus loin, il finissait par cracher le morceau en disant, ben, si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est que s'il y a tant de GABA dans l'ensemble des structures nerveuses, ben, c'est que sûrement, c'est pas loin d'un neuromédiateur. Voilà. Oh, alors nous, on en était aux monoamines, et puis c'est tout, hein, ça suffisait déjà bien, hein, la dopamine, la sérotonine, machin... Qu'est-ce que c'est ce fou? Il va falloir qu'on le garde à bronco, hein, je crois. Hein. Puis voilà. Puis il insistait, bien sûr. Et plus il insistait, plus on le prenait pour un foutraque, quoi. Voilà. Et puis un beau jour, eh ben, une équipe, finalement, le prend au mot et puis dit, bon, ce GABA, qu'est-ce que c'est? Bon, ben on regarde, voilà. C'est du GABA, quoi. C'est du GABA. Voilà, alors on connaît les 4 carbones, bon, on connaît, je vais vous la donner tout de suite après, la formule, je ne sais même pas si je l'ai, voici vraiment, je l'ai oublié, non, elle se cache, bon, alors ça ne fait rien. Donc, on a le GABA, alors à ce moment, c'était la grande mode de faire des infusions de produits radioactifs dans le cerveau, d'incuber, puis de faire des radiographies, et à ce moment, ça aboutit à une chose, c'est qu'on prend du GABA, on le marque au produit radioactif, et puis on l'injecte dans le cerveau des rats. Voilà. On laisse incuber 24 heures, et après on sacrifie le rat, on fait des coupes avec des lectures de radioactivité. Voilà,
super.
On s'aperçoit que notre GABA radioactif s'est incrusté dans une multitude de noyaux cérébraux, et en particulier dans les noyaux sous-corticaux. Voilà, vous les avez ici, ils sont des fausses couleurs, hein, mais on les a mis plutôt fluo pour pouvoir voir. Et donc, bien entendu, là, le thalamus, ici, l'amygdale, l'hippocampe, le septum, le noyau, le corps mammilaire, l'hypothalamus, un thalamus, l'hypothalamus, l'hypophyse, et puis une grande quantité dans les encéphales. Quand on regarde bien attentivement, on en trouve plein sur le cervelet, là, ici, on en trouve plein dans le cortex limbique, et on en trouve plein, bien sûr, dans l'appareil olfactif, et plein dans les lobes frontaux, pariétaux, temporaux, c'est-à-dire en gros, la borite avait raison, il y en a partout. Voilà, c'est-à-dire, alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est simplement que le GABA qui a été marqué, bah, a diffusé dans l'encéphale, est allé se coincer sur tous les récepteurs GABA, voilà, et du coup, il est resté fixé, et du coup, on a pu marquer les zones où se trouvent les récepteurs GABA. Bon, alors là, ben bien entendu, ça veut dire que ce que la borite disait, ou préconisait, ou pressentait, ou prédisait, ben, était pas faux. Voilà. Donc du coup, on a commencé à dire, ben voilà, il y a peut-être bien un nouveau neuromédiateur qu'on vient de découvrir, c'est le GABA. Qu'est-ce que c'est que ce GABA? À quoi il sert? Pourtant, on n'en sait rien. Voilà. Alors bien entendu, à ce moment... Deux ou trois équipes se mettent à dire, bon, ben, puisqu'il y a des récepteurs GABA dans le cerveau, ben, on va essayer d'isoler ces récepteurs. Alors, ces récepteurs, alors d'abord, trouver d'où sort ce GABA. Voilà, alors, bon, ça c'est le travail des physiologistes. Je vous donne juste par un petit peu de science, ceux qui connaissent la physiologie. Voilà. Il y a longtemps qu'on connaît le cycle de Krebs, voilà, dans une cellule. Voilà, et du cycle de Krebs, on a l'alpha-cétoglutarate qui donne naissance au glutamate, retenez bien ça parce qu'on en reparlera par la suite, qui peut donner le GABA, qui donne l'aldéhyde semi-succinique, le succinate et le cycle de Krebs qui tourne, voilà, comme un fada. Alors, le GABA, bien entendu, si c'est un neuromédiateur, il peut être émis tout simplement dans la fente synaptique, et à ce moment, il y a le récepteur GABA, qui est pas senti, et qui va redonner le succinate et qui va redonner le signe de crève. Bon, c'est-à-dire, rien ne se perd, rien ne se crée. Hein, on a juste la réaction et puis hop, on récupère et on resynthétise. Voilà. Donc là, les physiologistes commencent à comprendre le métabolisme du GABA, qui est finalement couplé avec le cycle de Krebs, qui est un des métabolismes essentiels du fonctionnement des cellules. Donc on est en terrain connu, et en plus, comme on connaît avec les monoamines le coût de la libération de neuromédiateurs et de récepteurs, bon, ça va, c'est pas trop compliqué, au bout de 2 ans, de découvrir qu'on a bel et bien affaire à un nouveau neuromédiateur. Alors, une fois qu'on a isolé les zones, et là, en l'occurrence, ce que je viens de vous montrer, là, c'est quand même le thalamus, l'hypothalamus, l'hypophyse et le système limbique, là, c'est caféine, vraiment, moi, c'est un jeu d'enfant que de faire une extraction de ces zones-là, c'est-à-dire on en prend un bon morceau, et puis on va se débrouiller pour essayer de trouver le récepteur à GABA. Alors, une fois qu'on a pu comprendre où se situait l'accrochage du GABA sur une structure nerveuse, dans cette structure nerveuse, on va essayer d'identifier quel est le récepteur du GABA. Et un récepteur, c'est forcément des protéines. Ça, c'est le boulot des chimistes. On essaye d'isoler le récepteur du GABA. Et alors ça, c'est à la fin des années 70, début 80, on s'aperçoit que le GABA se fixe sur une protéine, mais alors on n'a aucune difficulté à isoler parce que c'est une usine à gaz. C'est une méga protéine, un truc énorme, quoi. C'est-à-dire par rapport aux autres neuromédiateurs qui ont des récepteurs, qui sont tout petits, etc., pour le GABA, alors là, on a, je dis, oui, c'est faisant, quoi, hein, gros, par rapport à une bouteille de gaz, quoi, hein, camping gaz, quoi. Voilà, donc vraiment, alors là, nouveaux énigmes, quoi. Comment c'est possible qu'un neuromédiateur, qui est un des plus petits qui existe, un acide aminé, avec 4 carbones, ait besoin d'une machinerie pareille? Oh, alors, enfin, bon, peu importe. On arrive à isoler cette protéine, et puis on peut démontrer qu'effectivement, le GABA vient s'y loger. Voilà, il y a un récepteur GABA, et même, il y en a même deux. Voilà, c'est-à-dire, il y a 2 molécules de GABA qui viennent s'agripper sur ce récepteur GABA. Et puis, bien entendu, peu à peu, une fois qu'on a isolé cette protéine, ce récepteur GABA, on a tenté, comme toujours, d'y accrocher toutes les molécules qui voulaient bien s'accrocher. Et un beau jour, une équipe publie qu'elle est arrivée à démontrer que des barbituriques marquées, toujours, comme vous voulez, au tritium par exemple, ou n'importe quel autre élément radioactif, eh bien, est venu, comme par miracle, se figer juste à côté du récepteur GABA. Sur la même protéine, on a un récepteur à barbiturique. Alors, bon, bien sûr, personne n'y croit, on refait les manips, il faut se rendre à l'évidence. Eh bien, les barbituriques ont un site récepteur qui est mitoyen avec le GABA. Voilà. Alors, oh, quel rapport il peut y avoir entre le GABA et le barbiturique? On est en train de cogiter. Au bout de 2 ans, une nouvelle équipe publie un nouveau truc. Oh, bah, décidément, il y a toujours quelque chose qui se passe là. Vraiment. L'autre équipe publie la même manip, mais cette fois avec des benzodiazépines. On s'aperçoit que cette fois, sur cette protéine gigantesque, il y a non seulement un site qui est dévolu au GABA, mais encore un autre barbiturique, et enfin encore un autre au benzodiazépine. Et on ne peut pas confondre les deux. C'est sur la même protéine, mais pas au même endroit. C'est pas au même étage. Voilà. Puis on refait les manips. Voilà. Et donc là, on est, oui, début 82, 83. Bien entendu, ça a commencé à exciter, quoi, parce que On sait très bien que les barbituriques ont quelque chose à voir avec les benzodiazépines, tout simplement parce que les benzodiazépines ont remplacé les barbituriques. Alors, en quoi ils les ont remplacés? On sait que les barbituriques ont un dosage qui est très très difficile, très délicat, il en faut très peu pour avoir un effet anxiolytique, et puis passer dans le coma, et puis la mort. Et avec les benzodiazépines, on sait que ce sont des petits barbituriques, mais qui, comme je vous l'ai dit, ont un dosage qui est mille fois moins grand, et donc du coup, on a de la marge, donc du coup, plus de barbituriques, mais bien entendu, dans la tête d'un certain nombre de chercheurs et surtout de médecins, ils savent très bien, en tout cas des psychiatres, ils savent très bien que il y a une filiation entre barbiturique et benzodiazépine. Alors, bien sûr, autre point commun, c'est les chirurgiens et les anesthésistes qui ont tiré l'alarme en disant, attention, toutes les fois qu'on fait des anesthésies générales, on prend un risque énorme par rapport à la mémoire, tout simplement parce que les barbituriques emportent un bon morceau de la mémoire. Et assez vite, donc maintenant il y a 30 ans, il en va de même pour les benzodiazépines. Alors donc du coup, forcément, on commence à dire, bon, ce GABA commence à nous courir sur l'haricot. À quoi il rime? Voilà. Bon, c'est là qu'on découvre, alors, qu'une équipe, une première équipe de francs-tireurs découvre que, attention, cette super protéine machin avec GABA, barbiturique, benzodiazépine, elle comporte aussi un ionophore. Et quel ionophore? Ah, pas des moindres. Le ionophore du chlore. Voilà, c'est-à-dire, c'est un port qui s'ouvre, qui se ferme, pour laisser rentrer ou fermer le chlore. Alors, bien sûr, là, ça commence à prendre du sens. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais on sait que le chlore, c'est rigoureusement l'inverse du sodium au niveau moléculaire, NaCl, vous connaissez. Bon, quand on raisonne au niveau des ions qui passent à l'intérieur des neurones, bien entendu, le sodium va être excitant et on devine très facilement que le chlore va être inhibiteur. Alors, boum, tout de suite, ça fait bing, quoi. On commence à mettre en rapport que les barbituriques et les benzodiazépines ont quelque chose à voir avec le canal chlore. Et que donc, c'est un rapport avec le GABA. Et que donc, du coup, on commence à comprendre qu'ils sont interdépendants. C'est-à-dire que le GABA fait peut-être ouvrir le canal chlore, voilà, puis il se referme, bien entendu, parce qu'il y a des enzymes qui viennent démolir le GABA sur le récepteur, mais que peut-être bien que les barbituriques viennent empêcher que les enzymes démolissent le GABA, et que du coup le canal chlore reste ouvert. Voilà. Et auquel cas, bon, ça commence à prendre tournure. Voilà, alors, c'est là qu'on apprend encore des bonnes. On apprend qu'ici, on a un autre site qui s'appelle le site à picrotoxine. Voilà, quand vous entendez picrotoxine, tout de suite, vous devez avoir les oreilles qui se dressent. Voilà, parce que dedans, il y a toxine, quoi. Hein. Bon, pourquoi toxine? Bon, je ne sais pas quel serpent vous pique avec ça, mais bon. C'est une substance toxique. Et en quoi elle est toxique? Eh bien, c'est que quand vous avez quelques microgrammes de picrotoxine, vous faites des convulsions à vous fracasser la tête contre les murs. Oh, alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a à voir avec le GABA? Qu'est-ce que ça a à voir avec les barbituriques? Qu'est-ce que ça a à voir avec les anxiolytiques, les benzodiazépines, machin? On n'a pas le temps de se faire une raison qu'on trouve encore d'autres molécules qui viennent loger à la même enseigne, quoi. Vraiment, c'est vraiment Emmaüs, quoi, hein, là, hein. C'est incroyable, cette protéine. Hein. Bien sûr, on s'aperçoit qu'il y a des sites qui sont devenus aux hormones stéroïdes. Ah, alors là, les hormones stéroïdes, là, on commence à péter un câble, là, quoi, en disant, mais alors ça veut dire que les stéroïdes, bien sûr, c'est des hormones sexuelles, quoi. Mâles, femelles, machin. Oula, mais il y a les vieux qui deviennent acariâtres. Les femmes qui, je sais pas quoi, machin. Le cycle striant, les grossesses. La ménopause, machin, qu'est-ce que ça peut avoir à faire avec tout ce foutoir, quoi. Ben, c'est vrai que ça joue sur l'humeur, hein, et comme ça, on est obligé d'essayer d'échafauder un modèle qui tienne compte de tout ça. Mais là, il commence à y en avoir beaucoup, hein, des assiettes à faire voler. Quoi. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce qu'on continue à chercher et on s'aperçoit qu'il y a encore d'autres sites qui encaissent des bêta-carbolines. Alors, bon, vous ne les connaissez pas, les bêta-carbolines, sûrement, hein, mais ben, il faut s'en garder, hein, parce que quand on injecte un peu de bêta-carboline à un animal ou à un humain, alors là aussi, il est pris d'angoisse épouvantable, il n'a qu'une obsession, c'est se supprimer. Pour faire cesser les angoisses, il n'y a pas d'autre moyen que ça. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et puis, avant-dernier retard, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un site, encore, avec une molécule, hein, qui est de Rhône Poulain, c'est pour ça que c'est Rho, machin. Mais puisqu'elle est sous un nom de code, ça veut dire qu'elle n'a pas été, à l'époque en tout cas, maintenant je ne sais pas où ça en est, mais de toute façon ça n'a pas été mis sur le marché, parce que sinon vous dépêcheriez d'aller en acheter, et donc on le saurait si ça avait été marché. C'est Rho 1545-13. Bon, ben, le jour où ça va être au point, je suis tranquille que je prends le pari que vous allez en acheter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi? Eh bien, c'est une molécule qui renforce peut-être 10 fois la mémoire. Mais qui donne tellement d'emmerdes que, de toute façon, on ne peut pas arriver à la maîtriser. Quoi. Alors, on cherche une molécule qui donnerait... Bon, quel rapport entre les bêta-carbolines, les angoisses irrépressibles, et puis la mémoire, et les barbituriques, et les anxiolytiques? Ben, je viens de le donner, le fil. Hein, c'est que ce sont des substances qui agissent sur l'angoisse et qui agissent sur la mémoire. Voilà, bon, donc, ça forme un tout. Alors, dernier pour nous achever, là, pour finir en beauté, ben, on découvre... Alors là, c'est 85, bien sonné, c'est pas 86, on découvre que l'éthanol a aussi son coulant à bord. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que l'alcool a un site récepteur, peut-être que je le connais, oui. Ici, voilà, un site récepteur sur cette protéine. Alors là, ça commence à faire beaucoup, mais alors c'est là qu'on commence à y voir clair. Alors, bon, je vais essayer de vous reprendre en détail, hein, mais c'est facile. Hein. Vous connaissez comment ça se passe dans les groupes humains, en tout cas dans sous nos climats. Dès qu'il y a un petit événement, on fait un pot de l'amitié. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas autre chose que du vin, quoi, et puis un verre ou deux. Et vous apercevez que dès que tout le monde a bu un verre, et tout de suite, hop, ça monte d'un ton, quoi, hein, ça y est, bon, on commence à papoter, quoi, hein, on saucissonne, machin, et puis deuxième verre, ça monte aussi, voilà. Et puis les gens se parlent, et puis échangent leur adresse Facebook, quoi, je sais pas, quoi. Ou Twitter, ou je ne sais qui, bon, voilà, un numéro de téléphone, ou, voilà, tout de suite, c'est convivial, voilà, bon, ben, c'est pas autre chose que ce qu'on demande aux benzodiazépines. C'est un effet anxiolytique. Et puis, si vraiment ça se prolonge, donc c'est plus 2 ou 3 verres, c'est 4 ou 5, alors là, bon, ça commence à y avoir une agressivité, je ne sais quoi, et puis peut-être même de la violence. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'on va changer de camp. À ce moment, vous avez quelqu'un qui peut aller jusqu'à être ivre-mort. Il tombe dans le coma, et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qui se passe ici. Voilà, dès que vous avez dépassé la limite, boum, vous tombez dans les pommes. Voilà. Toujours avec la même molécule, hein, bien entendu. Et puis, vous êtes raide, et vous pouvez être raide mort, exactement comme les barbecues. Voilà. Et même, entre-temps, vous pouvez avoir fait des crises d'épilepsie. Vous êtes venu inonder complètement, saturer les récepteurs de la picrotoxine. Et donc, du coup, ça veut dire que les patients qui font des convulsions synthétisent naturellement, à l'intérieur de leur cerveau, des substances qui ressemblent étrangement à la picrotoxine et qui viennent sur le récepteur GABA. Voilà. Et donc, du coup, on commence à comprendre que cette certaine molécule d'alcool, elle peut, bien sûr, venir sur son récepteur, auquel cas elle a un effet euphorisant, très, très net, désinhibiteur en tout cas. Dès qu'elle déborde sur les benzodiazépines, elle va être plus qu'euphorisant, va être, Alexandre le Bienheureux, quoi, en gros. Dès qu'on déborde à ce moment sur le récepteur à barbiturique, alors à ce moment on va du côté de, du coma et de tout un tas de trucs. Alors le lendemain, hein, si vous en sortez, là les troubles de mémoire, hein. Ah bon, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'étais exhibitionniste. tu déconnes là, vous connaissez ça, hein. Bon, alors je peux vous dire que là actuellement, les jeunes cons alors, dont je parlais tout à l'heure, hein, le peace drinking, alors là, vous pouvez y aller, hein, là, VOM! Immédiatement, vous ne vous contentez pas de venir saturer le récepteur à éthanol, non, vous saturez la benzodiazépine, le Rho-45-13, le barbiturique et la picotoxine et les hormones stéroïdiennes. Ça, alors là, c'est sûr, hein, parce que quand vous dévalez je ne sais pas combien de bouteilles de rhum d'un coup cul sec, ah ben là, les doses sont suffisantes pour alors saturer absolument tous les récepteurs de tous les récepteurs GABA, quoi, de tous les noyaux du cerveau. Il n'y a aucun doute. Que ce soit le thalamus, l'hypothalamus, l'hypophyse, le système limbique, les noyaux, le corps strié, ou le bulbe olfactif, ou tout ce que vous voulez, les différents lobes du cortex, alors il n'y a aucun doute que non, c'est plein pot. C'est ce qui est recherché. Et les jeunes tombent en 15 minutes, si j'ai bien compris. Ça, c'est pour commencer la soirée. Alors après, c'est Shilom, et puis après, c'est les pills, etc., quoi, pour ceux qui ont survécu. Quoi. Non, mais je ne noircis pas le tableau, c'est ce qui se passe tous les soirs, là, sur les quais de Saône, de Rhône et autres. Hein. J'invente rien, je lis les journaux, c'est tout. Hein. Mais alors là, cette fois, on commence à comprendre. C'est-à-dire que, maintenant je reviens au canal chlore, hein, c'est-à-dire que le GABA contrôle l'ouverture du canal chlore. Voilà, c'est-à-dire, voilà, il est fermé, il n'y a pas de chlore dans le neurone. Mais s'il y a un GABA qui arrive, deux molécules de GABA, hop, il fait ça, tac. Voilà, chaque fois qu'il arrive du GABA, il s'ouvre et il se referme. Mais simplement, quand vous avez des benzodiazépines, ben, ils s'ouvrent, et puis ils mettent un peu de temps pour se fermer. Et puis quand c'est des barbituriques, voilà. Ça rentre à gros bouillon, et là, bien entendu, inhibition de toutes les fonctions, et là, vous tombez dans le coma. Et ça va jouer sur les centres régulateurs cardiovasculaires et sur les centres respiratoires, jusqu'à c'est quelques microgrammes suffisent pour passer la limite. Une fois qu'on est en pleine inhibition, il n'y a plus rien, et EG plat, c'est tout, c'est pas compliqué. Ah oui, non. Bon, alors vous avez 10 minutes à prévenir le SAMU pour me dire les faire repasser, je ne sais pas quoi, bouche à bouche et machin. Sinon, c'est fini, quoi. Et bien entendu, on comprend que donc ce canal chlore est plus ou moins est commandé par le GABA, mais il peut y avoir des agonistes qui viennent empêcher la refermeture assez douce avec les benzodiazépines, très très féroce avec les barbituriques. Et inversement, on commence à comprendre, et je vous dis, c'est 80-85, où ça devient clair, c'est que la picotoxine, elle empêche l'ouverture du canal chlore. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme GABA, de toute façon, il reste bloqué, coincé. Voilà. Et donc, du coup, l'excitation monte, jusqu'à ce que vous ayez des crises d'épilepsie. Voilà pourquoi, madame, votre fille. Alors, une fois qu'on a compris ça, eh ben, il n'y a plus qu'à affiner, quoi. Alors, bon, là, il se trouve que j'ai un schéma qui est très bien fait, mais qui est incomplet. Alors, c'est dommage, parce que ils sont deux auteurs, deux nanas, pharmacologistes, là, très, très doués pour ce genre de choses, et qui donnent Alors, il est plus joli que le précédent, mais il manque quand même ce qui est essentiel, c'est-à-dire le canal chlore, quoi. Donc, on ne sait pas comment elle le représente. Et donc, du coup, j'aime mieux me servir du noir et blanc que de celui-là, mais celui-ci reste intéressant parce qu'on voit que c'est une super protéine, énorme, avec, bien entendu, le pôle récepteur des GABA, comme vous pouvez le voir, là, voilà le GABA, qui va venir et qui va donc provoquer l'ouverture du canal chlore. Et puis, vous avez, alors, où se cache-t-il ici, là, le récepteur à benzodiazépine, bien entendu, le récepteur à éthanol, le récepteur à stéroïdes, le récepteur à barbiturique, le récepteur à picotoxine. Et que, à ce moment, comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre de candidats, de molécules qui vont avoir des actions un peu différentes selon leur forme. Alors, première action qui est en vert, comme vous pouvez le voir ici, pour certains ici, c'est un agoniste. C'est-à-dire, agoniste, ça veut dire qu'il va agir sur le récepteur GABA comme le GABA. Et puis, vous avez ceux qui sont en jaune, voilà celui-là là, qui est en jaune, bêta-carboline et le rho 1543, c'est un antagoniste, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet inverse du GABA. Et puis enfin, vous avez ceux qui sont en orange ici, c'est les agonistes inverses. Alors, voilà, par exemple la bicuculine, ou bien celle-ci, ou bien le rho 1543, ou bien certains stéroïdes à certains moments. Voilà, donc ça veut dire qu'on commence à comprendre qu'on a le récepteur GABA, en fait on a un récepteur GABA A, et c'est celui qui nous intéresse, là pour cette histoire, et puis on a un récepteur GABA B, mais bon, qui est d'une autre catégorie. Et puis, à l'intérieur de ce récepteur A, GABA A, on a les agonistes, les antagonistes, et puis les agonistes inverses. Et que donc du coup, on a tout l'arsenal nécessaire pour comprendre ce que je viens de vous décrire, des effets du GABA d'une part, des benzodiazépines d'autre part, des barbituriques d'autre part, de la picotoxine, et de l'alcool et des stéroïdes. Et que donc à partir de ce moment-là, on commence à comprendre pourquoi on a des sautes d'humeur en fonction des variations hormonales. En gros, hein, là, bon, pour les femmes, c'est particulièrement net au moment des règles ou tout au cours du cycle. Bon, c'est pas la même chose. Au moment de l'ovulation, on a des fluctuations qui sont perceptibles, alors, en tout cas pour la personne, et si on est un petit peu attentif pour l'entourage, en gros. Mais ça peut être discret. Par contre, ce qui est bien célèbre, c'est les deux autres phases. Au moment de la grossesse, hein, c'est-à-dire au cours de la grossesse, la femme est complètement transformée, ne serait-ce que si elle a un attrait pour certains odorants, un dégoût pour d'autres, pour la gustation c'est la même chose, une envie frénétique de certains plats, et puis un dégoût pour d'autres, et puis les sautes aussi d'humeur qui vont de l'euphorie jusqu'à une dépression énorme au moment de la parturition ou tout de suite après, ou baby blues ou autre. C'est-à-dire, bon, il y a des remaniements invraisemblables, ben ça commence à prendre sens en regardant les récepteurs GABA, tout simplement. C'est-à-dire, bon, la fluctuation hormonale est telle que c'est vraiment patent, quoi. Et enfin, toujours dans le même registre, la période de la ménopause ben, amène là aussi des mécanismes compensatoires qui sont difficiles à compenser, qui sont compensés éventuellement par une adjonction d'hormones, mais bon, c'est quand même les bouffées de chaleur et aussi le changement de caractère. Bon, c'est difficile à vivre, en tout cas, ces remaniements. Ben, là, pourquoi? Ben, tout simplement parce que tous les récepteurs à GABA sont perturbés. Deuxièmement, on comprend très bien que les barbituriques et dans une moindre mesure les anxiolytiques vont être des substances qui vont agir sur le canal chlore et que le canal chlore c'est l'agent de l'inhibition et que donc du coup on commence à comprendre que si on a des fonctions qui excitent le système, ben, on a d'autres fonctions avec le GABA, qui inhibe le système. C'est-à-dire, et du coup, une fois qu'on a le double mouvement d'excitation et d'inhibition, ben, on commence à comprendre qu'on a des régulations. Et que donc, nous, si nous avons un certain rapport au monde, c'est parce qu'on est arrivé à trouver un équilibre à peu près stable, avec des fluctuations. Voilà, vous connaissez les sautes d'humeur ou les sautes de caractère, mais en gros, bon, il n'y a pas trop de difficultés. Mais bien entendu, si jamais ça dépasse l'équilibre, alors à ce moment, on peut avoir des bouffées délirantes, par exemple, ou bien des inhibitions incroyables, quoi, hein, voilà. Et ça, Freud l'a déjà pointé en clinique. Inhibition, symptômes, angoisse. Comme par hasard, quoi, hein, voilà, bon. Je lis simplement le titre d'un de ses ouvrages. Ben, c'est exactement ce que je suis en train de raconter. C'est le GABA qui mène la danse de ce côté-là. En tout cas, on peut pointer que l'inhibition, le symptôme, l'angoisse ont quelque chose à voir. Ben, pour un neurophysiologiste, on sait que c'est le système GABA qui peut expliquer ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a compris le mécanisme, ben, peut-être qu'on peut voir quelques tares du système, quoi. Hein. Puisqu'on a compris qu'on avait beaucoup d'angoisse, que le benzodiazépine est, a un effet anxiolytique. Bon, ça, c'est indéniable, mais, en tout cas, de la pratique que j'ai vu faire à Vinatier, d'accord, on fait le traitement par rapport à des angoisses irrépressibles, on donne le traitement, mais pendant un temps limité. Et ce temps limité, ben, c'est 2 mois et demi. À partir de 2 mois, donc, on commence à dire, en tout cas, l'équipe médicale, hein, commence à dire aux patients, bon, ça fait déjà 2 mois que vous êtes sous Valium, bon, prenons-le. Alors, il va falloir tenter de réduire, quoi, avant que ça ne devienne grave. Voilà, alors bon, ben réduire, voilà, c'est réduire le nombre de gouttes, hein, ou si c'est des cachets, ils sont sécables, hein, la plupart du temps, donc on les coupe. Mais après, ça fait encore beaucoup trop. Eh ben, c'est simple. Voilà, en tout cas, à Vinatier, dans le service où j'étais, ben, c'était simplement de s'armer d'un couteau. D'un couteau cranté en plus. Voilà. Alors le cachet, on le saisit par les ouïes. Et puis, premier jour, donc au bout de 2 mois et demi, premier jour, un coup de canif dans le contrat, crac, une micro-molécule s'en va. Donc la dose est déjà moindre. Quoi. Le lendemain, 2 coups de canif dans le contrat. Ça fait 2 microgrammes de moins. Quoi. Puis troisième, 3, puis etc. Et insensiblement, on réduit la quantité. Ce qui fait que se présentent tous les symptômes qu'on va décrire, là, tout après. Mais c'est compatible avec une vie d'un patient qui est quand même un peu dorloté, et puis surtout avec un psychologue qui éventuellement dit « Bon, vos angoisses m'intéressent. » Hein, voilà, oui, bien sûr. Oui, alors, parce que si c'est pour roupiller toute la journée, c'est pas la peine, quoi. Hein. Bon, et donc du coup, c'est un échange, voilà. Je vous donne moins de merde, et ben vous, en contrepartie, lâcher deux ou trois choses, quoi, voilà, c'est pas compliqué. Alors, pourquoi les psychiatres lyonnais sont attentifs à ça? Eh bien, voilà, par exemple, la première chose qu'on connaît, maintenant une tarte à la crème, hein, mais il n'empêche que encore des psychiatres lyonnais n'acceptent encore pas ça. Même des gens de grande qualité. Bon, c'est assez incroyable. Mais bon, voilà. Bon. À Noël, en général, on se traite le chignon avec ma belle-sœur, qui est une ancienne chef de service psychiatrique. Quoi, monsieur, non. Elle n'accepte toujours pas que les benzodiazépines sont amnésiants. Ben, là, bon, regardez tous les articles. Bon, voilà. L'action amnésiante des benzodiazépines. Voilà. Les benzodiazépines, dont la fonction majeure est la sédation, sont susceptibles d'entraîner une amnésie entérograde, massive et transitoire.
Ça veut dire quoi?
Bien que la comparaison de ces deux effets soit limitée par des problèmes méthodologiques, de nombreux arguments militent en faveur d'une dissociation, au moins partielle, entre amnésie et sédation, etc. etc.
Ça veut dire quoi, entérograde?
Avant le fait de prendre la benzodiazépine. Alors, là, c'est les neurologues lyonnais, le gang des lyonnais, vous connaissez, qui suppose qu'il n'y a pas été de main morte pour démontrer la chose. Alors, je vous le donne, hein, comme vous tenez dessus. Différents types d'amnésie après une crise d'un comprimé de benzodiazépine hypnogène. Donc, hein, c'est donc les benzodiazépines qui ont une action sur la vigilance, les hypnotiques. Voilà, alors, le schéma est simple. C'est le premier cas de figure que vous avez ici. Voilà. À 21h, l'infirmière passe et distribue la benzodiazépine. Un comprimé, pas un tube, hein, un comprimé. Ici. Et puis la personne s'endort, et puis au réveil, on la questionne, et puis surtout, la surveillante a regardé son comportement. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on constate? C'est une période, ici, de confusion, agitation avec oubli à mesure. Ici. C'est-à-dire, elle repasse deux, trois fois, et elle lui dit bonsoir. Elle a oublié que... Le patient a oublié qu'il avait déjà dit bonsoir, etc. Confusion, agitation, oubli. Endormissement normal, réveil normal avec oubli de la période de 21h à 22h. Voilà. C'est-à-dire, bon, au petit matin, avec un seul comprimé de benzodiazépine, il y a une heure qui manque. Voilà. C'est-à-dire, l'infirmière a fait exprès, passer deux, trois fois, il y a des faits marquants. Tous les patients rappellent ce qui s'est passé. Et là, celui qui a pris le comprimé, Bernick. Déjà, il avait manifesté, confusion, agitation. Mais là, voilà, on en a la preuve. Deuxième cas de figure. Benzodiazépine est donné, comme ça, la réglo, crac. Bien sûr, extinction des feux, endormissement et nuit normale. Et puis, on constate que, c'est après coup. Voilà, de 8 à 10, journée normale avec un trou de la période de 8 à 10. Donc, un seul comprimé peut vous grignoter les traces mnésiques tout de suite après la prise ou 12 heures après la prise. Troisième cas de figure. Toujours distribué de la même façon, et puis réveil normal, mais oubli complet de réveil nocturne. Là, c'est oubli ici, là, de 1h à 3h du matin. Oubli à mesure, confusion, polyipsie, boulimie. C'est-à-dire, la personne se réveille, et puis a envie de pisser, va pisser, quoi, hein, et puis bien sûr, on a garni le frigo, quoi, hein, et donc elle va mettre, comme elle a faim, elle va mettre la tête dans le frigo, quoi, en gros, pour regarder si. S'il y a bien une boîte de macro ou une salade de museau ou je ne sais pas quoi, se goinfre. Bien sûr, l'infirmière surveille, donc dit, ça va, bon, ça va, petit, oui, bien sûr. Et au petit matin, bien entendu, tout est consigné, on regarde, réveil normal, oubli complet de ce qui s'est passé la nuit. Voilà, et alors la personne aussi a envie de boire 2 litres d'eau. Coca, hein, je ne sais pas quoi, tout ce qu'elle trouve, quoi. Hein. Quatrième cas. Alors là, c'est une prise erronée. La benzodiazépine a été donnée à 8h du matin au lieu d'être donnée à 21h. Réveil normal avec oubli lacunaire de la période de 8h à 17h. C'est-à-dire ici, la branche, regardez, diplopie. C'est-à-dire, elle vaut double, en gros, hein. Ataxie, impossibilité de bouger. Fou rire, oubli à mesure de type ictus amnésique avec amnésie rétrograde de plusieurs années. Bon, c'est bien. Quand on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé il y a fort longtemps, Bernick. Bon, c'est incroyable, mais c'est ça, toujours avec la même posologie. Alors, le Le cinquième cas. La cinquième catégorie qu'ils ont pu repérer sur de longues observations. La benzodiazépine est prise normalement à 21h, 22h, endormissement, réveil normaux, pas d'amnésie entérograde, mais de petits oublis rétrogrades en secteur des 24 ou 48 heures précédentes. Voilà, des petits blocs, oubli d'événements qui se sont produits avant la prise du comprimé, amnésie rétrograde en secteur. Voilà, alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller voir la source. C'est Mémoire et amnésie chez Masson, 1989. Il y a quatre signataires. C'est Trier, Laurent, Bernard Laurent qui est à Saint-Étienne maintenant, et puis François Maubière, et puis, je ne sais plus, Schott, peut-être, le quatrième. Enfin bon, peu importe, vous le trouverez chez Masson. Aucun souci, il donne des tonnes d'éléments. Bon, c'est des gens sérieux, je peux vous dire. Mon bien était le doyen de la fac de médecine il n'y a encore pas longtemps. C'est imparable, quoi. Hein? C'est-à-dire, les benzodiazépines, ont des possibilités d'attaquer la mémoire. Alors, comment ça peut se comprendre? Alors, je ne suis pas sûr que le mécanisme soit vraiment élucidé. Moi, j'en imagine un, avec un certain nombre d'indices, mais sans avoir des preuves formelles, c'est que ces benzodiazépines sont tellement bien intégrées dans le métabolisme qu'ils rentrent dans la composition des souvenirs. Hein, c'est-à-dire, vous avez une trace mnésique, c'est simplement des excitations nerveuses, mais à un moment, il faut passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et la mémoire à long terme, elle implique des synthèses de protéines. Ben, il se trouve que les benzodiazépines, très probablement, rentrent dans la fabrication de cette protéine. Et donc, la trace mnésique, elle comporte une benzodiazépine sous la forme d'une protéine. Mais, bien entendu, les enzymes ne l'entendent pas de cette oreille et cherchent tous les intrus. Et quand ils tombent sur la benzodiazépine, ils la dégagent, en quelque sorte. Et du coup, la trace mnésique, elle fait défaut, quoi. Et ça, bien entendu, ça veut dire que c'est dès que c'est de la mémoire à long terme, c'est-à-dire ça peut être au bout d'une heure, comme on vient de le voir... 3 heures, 12 heures, 15 heures, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours. Il n'y a pas de limite, quoi, si ça rentre effectivement dans la composition de la trace. Ça, c'est intégré dans les matériaux de construction des traces mnésiques. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur les traces mnésiques à base de protéines? C'est que c'est une vieille histoire. Alors, je peux vous dire... Moi, c'est quand j'ai fait mes études de biologie, c'est-à-dire, dans les années 60, en gros, il y avait une curiosité, c'était que on avait des planaires, c'est-à-dire des vers plats, qu'on pouvait leur apprendre à tourner toujours du même côté, à gauche par exemple, ou à droite. Voilà. Donc, ils apprenaient à tourner toujours de la même façon. Alors, bon, on leur a fait voir à ces pauvres planaires. Hein. On arrive à extraire l'ARN de ces planaires, on injecte cet ARN à d'autres planaires qui sont naïfs, elles se mettent à tourner du même côté que celles qui étaient. Et puis, alors là où on n'a jamais on ne comprenait pas à l'époque, les années 65, comment c'était possible. En traitant avec des antibiotiques, ces planaires qui avaient appris à tourner tout à gauche ou tout à droite, ne tournaient plus du tout. Bon, alors il se trouve que 65, c'est la découverte du code génétique et de tous les systèmes, et on a commencé à comprendre assez vite que les antibiotiques avaient un effet antibiotique pour une raison simple, c'est que ça empêchait la synthèse des protéines. Donc, la mémoire est tributaire de la synthèse des protéines. Donc, si on utilise des antibiotiques, et c'est maintenant bien connu que les antibiotiques vous rongent des morceaux de mémoire. Parce que simplement, pour pouvoir consolider vos traces mnésiques dans la mémoire à long terme, vous avez besoin de passer par la synthèse des protéines. Et du coup, les benzodiazépines risquent d'en être... Alors, deuxième, peut-être, laissons tomber, je vous laisse cogiter, peut-être la deuxième chose, c'est que les benzodiazépines provoquent une dépendance. Alors, je l'ai déjà un peu traité, hein. C'est-à-dire, pour avoir le même effet, il faut augmenter les doses, c'est une tolérance, et cette tolérance, elle est facile à comprendre, c'est que vous avez des enzymes qui viennent démolir les molécules intrus, et donc du coup, puisqu'elles sont plus efficaces, puisqu'elles rencontrent toujours les mêmes intrus, pour avoir le même effet, donc pour lutter efficacement contre les angoisses, toujours de la même façon, au bout de 2 mois ou 3 d'imprégnation, il faut augmenter les doses. Voilà. Donc, bien sûr, on crie au casse-cou, et la plupart des patients décident d'arrêter. Le problème, c'est que si on arrête, on tombe sous un autre problème, c'est celui du sevrage. Exactement de la même façon qu'avec l'héroïne, la cocaïne même, mais surtout l'héroïne et la morphine, on a un syndrome de sevrage. Alors voilà ce qui se passe avec les benzodiazépines. Bien sûr, on peut utiliser les benzodiazépines, mais modérément, bien sûr, pour la même raison que l'alcool, et surtout en évitant de prendre de l'alcool, à cause de la potentialisation. Voilà, symptômes du syndrome de sevrage avec les benzodiazépines. Voilà, alors donc, il y a 24 patients qui sont observés et on les met en abstinence pendant plusieurs jours. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? Alors, à ce moment, anxiété, tension chez tous les patients, agitation chez tous les patients. Symptômes corporels d'anxiété, irritabilité chez tous les patients. Tremblement, agitation chez tous les patients. Voilà. Alors ça, c'est typique du manque. Hein. C'est pas aussi intense, bien sûr, qu'avec l'héroïne, mais... Et du reste, au passage, c'est bien comme ça qu'on va sortir de la dépendance de l'héroïne. C'est en utilisant des benzodiazépines, quitte à devenir dépendant aux benzodiazépines, c'est quand même plus facile de sortir de la dépendance des benzodiazépines. Bon, donc, manque d'énergie, 14. Perte de mémoire et de concentration. Vous voyez, là, les problèmes qui commencent à apparaître. 9. Dépersonnalisation irréaliste. 6. Sommeil tourmenté. 5. Mal de tête. 18. Douleur et contraction musculaire. 14. Perte d'appétit. 12. Nausées, vomissements. 12. Dépression. 12. Perspiration, une toute petite transpiration. 9. Goût métallique dans la bouche. Hyperosmie, c'est-à-dire on sent les odeurs avec une intensité folle, comme les femmes enceintes, certaines femmes enceintes. Voilà, qui ne supportent pas la fumée de tabac, par exemple, ou diesel. Oui, il y a l'adaptation, la protection du fœtus. En gros, probablement, non? Vision trouble, yeux douloureux, photophobie, 15, incoordination, vertige, 14, hyperacousie. Voilà, c'est-à-dire, bon, on entend les bruits avec une intensité folle, donc toute la perception est bouleversée, en quelque sorte. 14, paresthésie, 8, hypersensibilité au toucher, toujours, 6, réaction paranoïaque, 3, par exemple, 3 sur 24, un huitième. Alors, bien entendu, il y a des échelles, les échelles de sevrage, je vous en donne juste quelques-unes. Fatigue physique, alors, aucune, on code 0, fatigué, mais sans besoin de s'allonger, 1, a besoin de s'allonger de temps en temps, 2, allongé toute la journée, 3, perturbation du sommeil, par exemple, juste pour vous donner la logique, Sommeil normal sans hypnotique. Merci, du cadeau. 0. Sommeil normal avec hypnotique. 1. 3 à 6 heures de sommeil avec hypnotique. 2. Moins de 3 heures de sommeil avec hypnotique. 3. Voilà, et après, on fait la somme de tous les trucs. Alors après, céphalée, vertige, symptômes orthostatiques, palpitations, tremblements, transpiration, sécheresse de la bouche, constipation, trouble de la miction, etc. etc. Voilà, on donne la dégrille, et là, bon, théoriquement, c'est le psychiatre qui devrait faire ça, mais bien sûr, l'infirmière, et puis après, l'infirmière, elle est débordée, alors c'est l'aide-soignante, et puis après, sa femme de ménage, quoi. Bon, en gros, on connaissait, puisque, bon, c'est pas bien compliqué, hein. Donc, voilà, ça rejoint le DSM-4. Voilà, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle rembourser la dette, quoi. C'est-à-dire, tout ce qu'on a étouffé grâce aux anxiolytiques, boum, ils rejaillissent, et donc il y a un cap très difficile à passer, quoi. Voilà, bien sûr, exactement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, en gros, hein. Et donc, du coup, vous enfoncez le symptôme, et il fait retour du refoulé, de rechef, quoi. Et du coup, bien entendu, les patients sont plus angoissés qu'au début du traitement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils reprennent et retombent dans l'ornière, quoi. Et du coup, c'est la fin du sable, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de monter la dune de sable. Voilà. Et donc, vous continuez à remplir vos godets, quoi. Hein. Voilà. Vous êtes niqué au bout d'un an, quoi. Deux. Après, ça devient irréversible, quoi. Et donc, du coup, vous êtes même obligé d'augmenter les doses. Et vous êtes cuit comme une rave, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'il faut absolument être conscient du danger et puis de ressortir du piège dès que vous avez mis la tête dedans. C'est-à-dire que vous avez 2 mois où vous avez un calme qui revient. Alors, à ce moment, il faut pouvoir utiliser une autre technique, quoi. La parole, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Bon, voilà, alors, peut-être 2 mots sur les hypnotiques, pour pouvoir un peu tirer sur les barbituriques, parce que le temps passe, quoi. Donc, alors, bien sûr, les hypnotiques, ça renvoie au problème de l'absence de sommeil, et donc c'est une hypervigilance qui s'installe et qui a été préparée par tout un tas d'états de stress, en gros, pour faire simple, hein. On ne peut pas rentrer trop dans les détails, puisqu'on l'a vu l'année dernière, un certain nombre de choses. Comme vous savez, il y a des benzodiazépines qui calment le jeu, mais qui vont amener d'autres soucis, quoi. C'est bien sûr les benzodiazépines hypnotiques. Mais on va essayer de dire 2 ou 3 choses sur les barbituriques pour que vous les connaissiez. Donc, voilà le cercle vicieux dans lequel tous les praticiens sont perplexes, hein, parce qu'ils n'ont pas de solution autre que de prescrire des choses qu'on retrouve. Oh, voilà, on a un mauvais sommeil qui est souvent dû à des problèmes d'environnement qui peut être physique ou psychologique. C'est des tensions qui proviennent du couple ou du travail ou de je ne sais quelle situation sociale. Bon, on en voit tous les jours dans les journaux, hein. Il n'y a pas de difficulté à comprendre pourquoi on peut avoir la difficulté à trouver le sommeil. Donc, le praticien va prescrire des hypnotiques. Ces hypnotiques, comme vous l'avez déjà compris, ils sont inefficaces à long terme. Voilà, donc, il y a plusieurs solutions. Bien sûr, s'ils arrêtent, si le patient arrête, voilà, on a un rebond d'insomnie. Le peu de sommeil que la personne a pu récupérer, ben, elle va devoir le rendre, quoi. Alors, à ce moment, on augmente les doses, en général, qui deviennent de toute façon aussi efficaces. Et à ce moment, on va associer plusieurs hypnotiques. Alors, bien sûr, ça insiste, puisque les causes demeurent, ben, forcément, la chimie ne va pas régler la question des causes. Et donc, du coup, c'est auto-entretenu. Et donc, ça amène à la consommation abusive et qui renforce lui-même, qui démolit les centres du sommeil, quoi. En gros, hein, non pas du sommeil, mais des narcoses. Enfin, voilà. pas, dans l'école lyonnaise du sommeil, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, c'est-à-dire, bon, ça n'a rien à voir, c'est pas du sommeil physiologique. Bon, donc du coup, ça pose ce problème des hypnotiques qui sont ici et qui déferlent en permanence dans les cabinets médicaux, quoi, parce que ça, ces plaintes se font très facilement auprès des médecins généralistes. Et ils se font... On ne va pas consulter un psychiatre. Je suis pour fond, donc... Alors, bien sûr, la réponse, c'est la chimie. Merci, Rosemoulin. Proste de la chimie. Alors, voilà. Bon, ben donc, on a une collection d'hypnotiques qu'on connaît depuis longtemps, même si, au début, on ne pouvait pas les classer. Après, on les a classés, bien entendu, avec de lait... qu'on a connu. Donc, première génération, c'était le bromure, le chloral, l'uréthane, puis ensuite les carbamates, l'énobidon, les mérinas. Puis sont venus les barbituriques. Voilà, alors, les barbituriques, ben, je vais faire un petit couplet sur les barbituriques. Hein. Alors, vous les connaissez, ils finissent par al, en règle générale. Voilà, alors pourquoi ben, voilà, c'est aldéhyde, hein. C'est l'aldéhyde de l'acide barbiturique, et donc du coup, en règle générale, on a les premiers véronales, on a gardé al. Voilà. Et donc, ça c'est l'industrie allemande qui a fait deux hyménoptales et véronales. Véronales tout simplement parce que celui qui l'a découvert a utilisé cette substance et s'est réveillé à Vérone. Et comme c'était un aldéhyde, il a proposé de le commercialiser sous le nom de Véronal. Voilà. Et alors ça fait un tabac, et donc en France on tirait la gueule, quoi, parce que c'était encore les Boches qui avaient encore arraché les parts de marché. Bonsoir. Alors il fallait absolument qu'on réagisse, quoi. Hein. Donc on a réagi, on a trouvé une molécule qui faisait miracle, qui faisait la pige aux Allemands, quoi. Hein. Et alors brainstorming, quel nom on va lui donner, quoi. Et il y a, au bout d'une journée, tout le monde en avait marre, il y en a un qui dit, bon, cassez les pieds ou le truc, en tout cas, donnez-lui le nom que vous voulez, mais gardénal, hein, puisqu'il y avait hyménoptal et puis véronal, machin. Et il y en a un qui rebondit dessus en disant, mais voilà son nom, gardénal. Eh ben voilà, bien sûr. Et alors, là, on a les Allemands ramassés à pâté. Hein, Nabutal, machin, et voilà. Bon, alors ensuite, les phénothiazines, Denormil, Teralène, bien entendu, Piperidine, Dione, Mandrax, Nurbaren, Doriden, ces noms magnifiques que nos concitoyens. Vous pas poignet, hélas. Et puis les benzodiazépines, enfin, arrivent Alcyon, Aplan, Mogadon, Noctamine, Noriel, Normisson, Nuptalone, Rohypnol, bien sûr, le fameux Rohypnol. Et puis d'autres molécules plus récentes qu'on essaie de vous fourguer, Imovan, Stimnox, c'est bien sympathique quand même, et puis divers, on ne sait pas où les classer, bon, voilà, Mediflore, notre valène, et qui marche aussi bien, probablement, la passiflore, mais ça, c'est encore l'industrie allemande qui nous vend ça. Je vous en parle juste après. Voilà. Bon, non, on a une bonne panoplie. On n'en manque pas, quoi. Hein. En gros, c'est-à-dire qu'il y a un marché. Il y a un marché juteux. Alors, bien sûr, c'est le marché des hypnotiques.
Les hypnotiques. Alors, deux, trois considérations. Je ne suis pas trop endormi. Alors, donc, toujours, si on prend les hypnotiques, toujours avec la même méthode, vu que c'est une idée fractionnée par habitant, eh bien, bah oui, bah, c'est con, mais on a le bonbon, hein, là. Voilà, je vois 16 500 unités fractionnées par habitant, devant la Belgique, puis le Royaume-Uni, puis la RFA, à l'époque, l'Italie, puis l'Espagne. Voilà. Alors,
pas amoureux, ça c'est de 94, alors. Non, mais bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. C'est des chiffres que j'arrivais à publier, quoi. Hein, donc, ça fait rien, ça fait rien. Bon, donc, on est bon là. Hein.
Vraiment, on sait faire, on sait bouffer des trucs, hein, il n'y a pas de doute là. Alors là, en détail. En détail. Alors, à ce moment, regardez-moi ça. Si on prend les hypnotiques toujours, avec toujours la même méthode, unité fractionnée, si on prend la France et qu'on compare avec les autres. Alors, bon, en France, les benzodiazépines, 6,1. Bon, par rapport à la Grande-Bretagne ou la Belgique, 13. Bon, mais attendons, c'est qu'il faut, il faut tenir compte de la deuxième colonne, c'est-à-dire les hypnotiques non benzodiazépines. Alors à ce moment, 6 plus 7, 13, 15. Ah, ils nous battent, hein. Mais là, là c'est bon, hein. Là ils font mieux, hein. Voilà. Alors maintenant, une fois que vous avez compris, donc il faut bien tenir compte de tous les hypnotiques, alors à ce moment, on peut se poser une question. Pourquoi tous ces chiffres sont petits et que celui-là est énorme? Et que celui-ci est petit, ceux-là sont énormes.
Les labos?
Ah, les labos, bien sûr, les labos, bien sûr, c'est eux qui les produisent, oui. Et qui ramènent les picaillons, bien sûr. Hein. Non, c'est assez vicieux. Hein, mais ils vont, il suffit de le voir, de le regarder.
Là, voilà, je vous ai dit, les hypnotiques non benzodiazépines,
c'est les nouveaux produits. On n'a aucune expérience. C'est bourré en France. C'est-à-dire,
on dégarnit ce front par rapport à la Belgique, hein, pour pouvoir expérimenter ici.
Merci la Sécu. Parce que c'est la Sécu qui finance les recherches des groupes américains. Là, c'est patent, là. Alors, poussons plus loin encore le cynisme.
On prend les plantes. Et les champions des plantes, c'est les Allemands. Et
donc, vous connaissez les Allemands, ben, ils sont toujours en train de faire attention aux tisanes, à ceci, à cela, d'avoir un petit jardin, de machin,
des trucs. Et les hypnotiques que vous connaissez,
ben, donc nous, c'est interdit de les vendre, quasiment. Je crois qu'il y a plus de 2 pharmacies qui peuvent le faire à Lyon depuis 1940, hein, puisqu'il n'y a plus de patente d'herboristes. Donc, du coup, alors bon, on fait des extraits, je ne sais pas quoi, machin, OGM, quoi, en gros. Hein. Alors, je ne veux pas dire que c'est aussi efficace ou je ne sais quoi, mais toujours est-il qu'on a laissé tomber complètement tout un pan des connaissances et que du coup, ben, on se gave d'éléments qui, eux, alors, amènent, ben, vous avez compris, les difficultés au point de vue de la santé. Alors, bien sûr, 2 mots sur les barbituriques, donc. Eh bien, pourquoi est-ce que le Gardénal a une carrière époustouflante? Eh bien, c'est que c'est un excellent barbiturique, certes, mais il a une autre vertu, et ça s'est découvert assez vite, c'est qu'il avait la vertu d'être anti-épileptique, et que du coup, anticommissial, et que du coup, bah, bien entendu, on l'a utilisé beaucoup chez les épileptiques. Et puis ensuite, une fois qu'on a un petit peu compris comment ça fonctionnait, et en particulier le rapport avec le canal chlore, eh bien, on a commencé à trouver d'autres molécules qui étaient peut-être pas tout à fait aussi efficaces, mais beaucoup moins dangereuses, bien sûr. Mais il y a encore des patients qui sont sous Gardénal, toujours. Alors, je vous donne quelques images encore.
Alors, voilà le Gardénal, voilà sa structure. En voilà d'autres, hein, l'indutal, par exemple. Et puis, pendant qu'on y est, voilà les convulsivants, bien sûr. La picotoxine, donc, qui déclenche, alors, c'est un modèle chimique de la.
Alors, peut-être je vous donne les antiépileptiques, parce que ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est que l'excitation et derrière l'inhibition déclenchée par les barbituriques. le canal chlore, là, c'est assez évident.
Donc, la liste des antiépileptiques, donc au tout début, il y a deux siècles, on utilisait le bromure, bromure potassium, hein, qu'on appelait
la musette des épileptiques, je crois, quelque chose comme ça, quoi, vraiment.
Ensuite, les barbituriques, hein.
Donc c'est le phénobarbital,
dont le chef de file, c'est le gardénal ou le prominal, action dans le grand mal, la chorée de Tilton, les convulsions. Et puis, bien sûr, on a trouvé d'autres qui étaient les primidones, alepsal, aparoxal, épanol, canerone, misolène, orthénal, sédatonine. Et puis, bien sûr, on les a plus ou moins abandonnés, mis à part pour certains patients le gardénal. On les a remplacés par les trois benzodiazépines phares, les 1,4 Rivotril et Valium, et puis le 1,5 Urbanil. Et puis, petit à petit, on a trouvé d'autres molécules. Voilà, le phénicoline, le Didan, le Solantine, le Mésantoine, le Nirvanol, tout un programme. Et puis, l'Epidium, le Paradium.
Oui, encore. Mais qu'on n'est pas avare, hein. Alors là, voilà encore des
souvenirs de l'époque héroïque. Voilà, les succinides, dont le Zarentin, qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Qui donc était utilisé dans le petit mal, mais qui, par malheur, chez certains patients, déclenche le grand mal.
Alors bon,
Et puis, Dordaine à nouveau, thalidomide. Et puis aussi, le valproate, qui est toujours beaucoup utilisé, donc. La dépamine, dépamine aussi. Et puis, le tégretol, bien sûr. Le gabrel, et autres, etc. Voilà. Bon, donc ça vous donne une petite idée qu'il
est possible de réduire l'excitation localisée, et pour ça, on peut essayer de voir comment on peut diagnostiquer l'épilepsie.
Voilà, c'est simple, hein. On place des électrodes, et puis on a un certain nombre de chaînes. Là, on a un certain nombre de chaînes qui agissent ici, là, qui donnent une petite activité, là. Et puis soudain, un orage qui commence à se déclencher. Vous voyez les ondes là, qui changent complètement. Les points ondes ici, là. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez cette amplitude ici qui est minuscule relativement. Et là, vous avez des monstruosités. Là, c'est un foyer d'excitation qui est bien localisable. Localisable tout simplement parce qu'on place les électrodes de façon très calibrée, exactement dans des points qui permettent d'avoir une idée de des différents lobes. Voilà, alors, par exemple, voilà, bon, très schématiquement, vous avez la tête ici, le nez, les oreilles ici, donc vous placez les électrodes pour avoir le lobe frontal, temporal, pariétal ou occipital. Et du coup, si jamais vous voyez ces points d'onde, bien entendu, ça veut dire que c'est telle zone qui est... Bon, alors, on peut aller... Bon, ben ça, c'est la méthode électrophysiologique. Hein. Alors, pour savoir si le sujet réagit et donc a des risques de pouvoir déclencher des crises d'épilepsie, ben, c'est assez simple. Il suffit d'envoyer des flashs. Donc, on augmente la fréquence de plus en plus rapide, et à un moment... Les réseaux neuronaux rentrent en résonance avec cette fréquence. Et alors à ce moment, vous avez les bouffées qui apparaissent. Quoi. Donc du coup, on arrête tout, bien entendu, et puis ça permet de faire le diagnostic. Donc bien sûr, ça rejoint ce que vous avez déjà dit, hein, mais les convulsions qui peuvent être déclenchées, soit par des substances chimiques, comme la bicuculine, picrotoxine, glutamate, acide caïnique, strychnine, pénicilline, nicotine, alumine, par exemple, au passage, ou bien le CO2, ou bien l'électricité, comme vous le savez,
l'électrochoc, en gros, hein,
haute fréquence, basse fréquence, des stimulations de l'amygdale, ou bien des stimulations sensorielles. Alors là, la crise de Diogène,
on l'a vu, on a travaillé là-dessus, hein, c'est chez la souris, un modèle de l'épilepsie. Vous prenez un trousseau de clés, avec 4 ou 5 clés, puis vous agitez votre trousseau juste sous la cage des souris ou des rats. Voilà, et à un moment, boum, vous en avez une qui part en brioche, quoi, hop, vous la prenez, et puis vous continuez un peu plus, boum, il y en a une autre. Et ensuite, vous les faites se reproduire, alors les descendants est encore plus sensible à ce qu'on appelle la crise audiogène. Alors après, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, parce qu'on reproduit pratiquement expérimentalement le phénomène de la convulsion. Donc, c'est un modèle. Ou bien l'épileptique photosensible, donc c'est les flashs. Et alors, je vois que je vais vous le raconter déjà, les flashs, ça explique... certaines personnes qui sont très sensibles et qui vont à Bourque, par exemple, et qui rentrent dans un platane. Voilà, alors, la route de Bourque, c'est la 83, je crois. Elle est caractéristique de deux choses. Elle est droite comme un i, donc on peut se dire, bon, il n'y a aucun accident qui devrait se produire, mais elle est bordée de platane. Voilà. Et quand on regarde quand est-ce qu'ont lieu les accidents, c'est toujours ou le matin ou le soir. Le matin, parce que le soleil se lève, et donc selon la vitesse à laquelle vous roulez, ben, bien sûr, un coup je te vois, un coup je te vois pas sur les platanes, tchac, 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 ça donne la fréquence avec laquelle résonne le sujet, boum, il fait une crise d'épilepsie, il rentre dans le décor. Et puis le soir, ben, c'est la même chose, retour, c'est... Voilà, bon. Bon, peut-être que... je pense que là, vous touchez du doigt qu'est-ce que c'est que l'excitation et comment on essaye de le réduire avec les barbituriques, ou bien le Valium, ou l'Urbanil, etc. Et que du coup, bon... Alors, il y a bien entendu le dernier point, c'est la question de la mémoire. Il faut voir la mémoire et puis l'angoisse. Et pendant longtemps, on a pensé que il y avait une relation entre l'angoisse et la mémoire. Alors cette relation, donc, si vous rappelez les anxiolytiques sous forme de benzodiazépines, tout comme les barbituriques, luttent contre l'angoisse, mais en même temps attaquent la mémoire. Alors donc pendant longtemps, et ça c'est les années 80, on disait ben c'est normal parce que pour apprendre quelque chose, il faut quand même être tendu. Donc il faut une certaine anxiété. Et du coup, on dit, bon, ben, comme il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus d'angoisse. Et comme il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus d'attention au phénomène des événements qui se produisent. Donc il n'y a pas d'apprentissage.